Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode consacré aux questions posées par la fin de vie. Depuis 2005, avec la loi Leonetti, puis 2016, avec la loi Claeys-Leonetti, les soins palliatifs ont beaucoup évolué en France. Les équipes de soignants prennent en charge de manière globale des patients en situation de fin de vie, c'est-à-dire des patients pour lesquels il n'y a plus d'espoir de guérison. Les soignants accompagnent ces patients pour tenter d'apaiser au mieux leur douleur. Et lorsque cet apaisement est difficile à trouver, ou que les circonstances liées à la pathologie conduisent le patient à exprimer un refus de continuer à vivre, comment les soignants répondent-ils à la demande de mort ? Ces demandes, même si elles sont exceptionnelles, sont accueillies par les soignants comme l'expression d'une souffrance à laquelle ils ont à travailler. Au moment même où l'examen d'un projet de loi visant à permettre une aide active à mourir est étudié en France, nous nous tournons vers les États qui ont déjà légiféré en ce sens pour apprendre de leur expérience. C'est le cas du Québec qui, en décembre 2015, a adopté une loi permettant d'accéder à l'aide médicale à mourir. Pour poursuivre cette discussion, j'accueille Anne-Marie Savard, qui est professeure titulaire à la faculté de droit de l'Université de Laval au Québec et titulaire de la chaire Antoine Turmel sur la protection juridique des aînés, et Brieux Henry, qui est médecin gériatre de l'unité de soins palliatifs Résonance, qui compte une équipe mobile et une équipe de soins sur le site de Purpan au CHU de Toulouse. Bienvenue à tous les deux.
Merci.
Merci beaucoup.
Nous avons terminé notre précédent entretien sur la question de l'accès aux prises en charge palliatives, qu'il s'agisse des unités de soins, des lits identifiés, de l'intervention des équipes mobiles dans les établissements ou du soutien qu'elles apportent dans le cadre des hospitalisations à domicile. L'accès aux soins palliatifs, il est toujours possible, quelle que soit la structure, l'institution. Comment vous l'expliqueriez, ce discours de dire que finalement, l'accès aux soins palliatifs, c'est un peu un luxe auquel tout le monde n'a pas droit.
C'est vrai qu'il y a de vraies carences malgré tout. Hein. Ça, c'est l'organisation telle qu'elle est voulue par la loi. Après, la mise en pratique, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est sûr qu'entre des personnes qui habitent à Toulouse ou dans le 31 en général, où on a quand même la possibilité d'avoir une équipe mobile qui va se déplacer à domicile, chez les personnes, où on a aussi des hospitalisations à domicile avec des médecins qui sont formés à la prise en charge de la douleur, aux soins palliatifs, où on peut faire des sédations profondes et continues maintenues jusqu'au décès au domicile. Ça, c'est le cas dans le 31, mais ce n'est pas forcément le cas dans d'autres départements. Et effectivement, aujourd'hui, la loi telle qu'elle est écrite, elle n'est pas appliquée de la même manière partout. Et il y a un déficit d'accès aux soins palliatifs qui va être effectivement dépendant de où on est sur le territoire français. Et bon, là, on parle beaucoup de la métropole, mais sur les départements ultramarins, c'est d'autant plus complexe.
C'est un peu la suite de la question que je vous posais, Anne-Marie, hein, sur l'inégalité des territoires. Hein,
mais... Absolument.
Et alors, j'ai une question un peu bonus, on va dire, que j'avais pas forcément, dont je ne vous avais pas forcément parlé, qui est un peu annexe, mais dans le cadre de l'aide médicale à mourir, est-ce qu'il est possible de procéder à un prélèvement d'organes ?
C'est une excellente question. À mon avis, oui, mais je devrais le vérifier.
Oui, oui, oui.
Votre question bonus me porte à réfléchir tout haut et vous l'avez. Mais c'est une excellente question. Je n'ai rien lu là-dessus. Je vais vous en faire la confession, pardon. Mais je vais me renseigner et vous revenir dans un autre balado.
Je vous remercie. Oui, parce que c'est une question qu'on s'est posée plusieurs fois dans le cadre du travail sur le prélèvement. Vous avez une idée de la réponse, Brigitte?
Alors au Québec, non, j'avoue que je n'ai pas forcément d'idée. Je sais que c'est un questionnement qui revient souvent de effectivement exclure le prélèvement d'organes des personnes à qui on administrerait une aide à mourir pour éviter effectivement les dérives ou un côté un peu utilitariste d'une euthanasie. Voilà, je n'ai pas plus de réponses là aujourd'hui.
Et en même temps, ça peut être des organes de bonne qualité.
Et en même temps, voilà, c'est peut-être se priver de
Et peut-être que ça peut correspondre justement, enfin, il faut que ça corresponde aux volontés, évidemment, de la personne défunte.
Voilà.
Mais de la façon dont on veut justement répondre à sa demande de mort, pourquoi ne pas répondre justement à son souhait d'aider son prochain, si on peut passer l'expression. C'est une excellente question. Enfin, il n'y a rien dans la loi. Ça, c'est sûr qu'il n'y a rien dans la loi qui ni l'empêche ni le prévoit, mais je vais voir peut-être un petit peu dans la pratique comment ça se fait. C'est vraiment intéressant, oui, effectivement.
Parce qu'en France, il y a une procédure, enfin, les prélèvements sont classifiés et ça pourrait correspondre à Maastricht 3, qui est un prélèvement anticipé du vivant de la personne.
Voilà, hein. Exactement.
Oui, oui, oui. Donc, bon, c'est une question...
Ça reste à voir, voilà. Ça reste à éclaircir, en tout cas, oui.
Finalement, la question de la mort, de la fin de vie, de la mort, elle est habituellement taboue dans nos sociétés. Et pourtant, avec ces débats sur la fin de vie, elle est très, très mise en avant d'une manière importante. Et il me semble qu'il est assez difficile de savoir à quel point ces débats ne sont pas en train d'éluder ce qu'est concrètement le mourir, ce que sont véritablement les circonstances du mourir dans le cas d'une pathologie grave et complexe. Exprimer une demande de mort, déjà, il me semble que ce n'est pas accessible à toute personne concernée par les soins palliatifs. Donc, je me demande s'il n'y a pas dans ces débats une sorte d'idéalisation de ce que sont la dignité et l'autonomie de décision pour une personne en fin de vie. Par exemple, l'autonomie, lorsqu'on est dans un état de très grande vulnérabilité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un petit peu compliqué de prendre une décision dans cet état de vulnérabilité. Ou alors même, on peut se demander, parce que c'est une question qui est beaucoup discutée, celle de la dignité. Est-ce que vraiment il y a des situations indignes et qui amèneraient l'idée que... il y a des vies qui ne valent pas la peine d'être vécues. Parce que finalement, ces questions-là, elles sont au cœur des débats sur la fin de vie. Elles sont beaucoup mises en avant. Mais le fond n'est pas tellement discuté, j'ai l'impression.
Je peux me permettre. C'est simplement, et ces réflexions-là, on les a eues, comme je vous dis, lorsqu'en 2009, on a mis cette commission spéciale sur la question de mourir dans la dignité. Et je vous avouerai très personnellement, et là, c'est pas en tant que juriste, mais en tant que citoyenne, moi, ça m'a choquée profondément. Parce que on induisait par là que cette forme de mort désirée, voulue, souhaitée, demandée, était celle de mourir dans la dignité. Que sont les autres qui, finalement, n'ont pas envie, n'ont pas le loisir d'aller là, alors c'est pas mourir dans la dignité. Cette commission-là, comme je vous dis, ça a duré 3 ans, donc ça laisse des marques dans la société. Ça dit quelque chose de la société, justement, qui parle de la mort. Donc pour moi, c'est important. Et après, on a mis cette loi, donc... en vigueur et considérant pour des raisons constitutionnelles que c'est un soin, bien là aussi, personne n'est contre la vertu, c'est un soin, tout le monde veut des soins. Donc, vous voyez, il y a une tendance par les mots, par cette tournée, ces consultations publiques qui ont induit, je pense, dans les consciences populaires, cette idée que mourir dans la dignité, c'est mourir quand on veut, quand on le souhaite et quand on en a envie. Donc, il y a vraiment un petit danger, je pense. Il faut revenir, je pense, effectivement, à d'autres notions relatives à la dignité, à l'autonomie qui parlent de l'être humain de manière plus ontologique, on va dire.
Oui, c'est intéressant comme réflexion puisqu'on a l'impression qu'aujourd'hui, les termes autonomie, dignité, ils sont un petit peu, alors peut-être un peu galvaudés dans l'utilisation qu'on en fait. Et en tout cas, ils sont un petit peu instrumentalisés aussi par le contexte de lobbying et de législation, légifération en cours. Moi, je préfère parler, en tout cas avec les patients, d'une notion de perte de l'estime de soi que de vraie perte de la dignité, qui me paraît être un petit peu plus compliqué à aborder dans une relation un petit peu quotidienne de soins. Mais en tout cas, c'est vrai que les patients, enfin disons, les citoyens vont porter un fort désir d'autonomie en se projetant dans des situations qui sont un petit peu par nature impensables, hein, celle de la maladie très grave, de la fin de vie proche, de la perte d'indépendance fonctionnelle, de la nécessité d'avoir des soins quotidiens. Donc tout ça, on peut effectivement s'y projeter pendant qu'on est en bonne santé, mais ça a ses limites. Et je pense que c'est de là que vient un petit peu cette demande de pouvoir mettre un terme à sa vie quand on l'estimera nécessaire. Et puis, d'un autre côté, quand ce moment vient, effectivement, comme vous l'avez dit, Flora, que dire de cette valorisation de l'autonomie alors qu'on est dans une situation d'extrême vulnérabilité, que derrière se passent des choses extrêmement complexes quand on approche à sa fin de vie, qu'on est sur parfois une dégradation de son état de santé extrêmement rapide, qu'on voit son corps changer, qu'on voit ses relations avec les autres changer, qu'on entre dans une relation de soins qui nécessite de rester hospitalisé. Je trouve qu'il y a une extrême complexité de ces questions et que la réponse qu'on pourrait apporter sur une aide médicale à mourir me paraît un petit peu simpliste vis-à-vis de la complexité des questionnements qui se posent à ce moment-là.
Pour avoir un peu étudié ces questions, il me semble que, par exemple, l'annonce de l'entrée dans les soins palliatifs suscite quand même souvent un choc. Et évidemment, la demande de mort dans ce contexte, c'est un contexte de vulnérabilité psychique. Donc, on peut se demander comment elle est fondée, hein, par exemple. Parce que j'imagine que ça... que les demandes de mort, elles sont souvent inscrites soit dans un contexte extrêmement douloureux et difficile à apaiser, soit aussi dans ce contexte de non-acceptation peut-être de la pathologie. Enfin,
vous avez totalement raison.
Une angoisse existentielle et cette angoisse peut générer un désir de contrôle aussi très grand, de sentir qu'on a une emprise sur quelque chose, ce quelque chose étant la mort. Tout simplement. Donc, il y a quand même ces dérives. Et je pense aussi, comme je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, concernant la demande anticipée d'aide médicale à mourir, là aussi, on a encore du chemin à faire, comme on dit, des questions à définir, parce que comment savoir si, lorsque la personne, elle est apte, elle peut déterminer les manifestations cliniques qui vont servir de signal aux professionnels compétents pour dire, elle avait dit qu'elle, une fois rendue alitée ou ne s'alimentant plus seule, elle voulait l'obtenir, mais voilà que la personne tout à coup manifeste des signes d'apaisement, elle est heureuse, mais les manifestations cliniques sont là. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il y a tout ça aussi à se demander, je pense. On n'a pas terminé d'en parler.
La question de la temporalité, elle est vraiment centrale.
Exact.
Entre, effectivement, une demande anticipée, entre le moment de la demande, qu'est-ce qui se joue. C'est ce qu'on essaye, nous, de mettre en avant, c'est que face à une demande de mort ou même une demande de sédation à l'heure actuelle dans notre pratique clinique quotidienne, il y a rarement une urgence à agir dans les 24-48 heures. Soit le patient est très symptomatique, il y a un risque pour sa vie à très court terme, et à ce moment-là, oui, il faut faire quelque chose pour le soulager, et ça peut être l'extraire de cette situation en abaissant son niveau de conscience, etc. Soit on n'est pas dans cette situation-là, et donc ces demandes, elles doivent être réévaluées. On doit pouvoir prendre le temps d'accueillir la demande, de comprendre ce qui est sous-tendu dans cette demande et effectivement pouvoir la réévaluer et la réexaminer. Ça nous est arrivé de voir des patients en équipe mobile de soins palliatifs, une patiente dans un service de gériatrie qui, venant de recevoir une annonce, ayant eu une première cure de chimiothérapie qui s'était très mal passée, qu'elle avait très mal tolérée, être hospitalisée dans le service d'oncogériatrie, et m'exprimer sur mon entretien en équipe mobile, vouloir mettre un terme à sa vie, vouloir aller en Espagne pour que on puisse mettre un terme à sa vie, et que c'était uniquement cette chose-là qu'elle voulait absolument. Et bon, on en a beaucoup parlé avec la dame, on en a beaucoup parlé avec l'équipe de soins, et puis finalement, on voit que en prenant du recul sur cette demande-là, en lui expliquant que aujourd'hui elle avait mal toléré une cure de chimiothérapie, c'était totalement envisageable qu'on ne refasse pas de chimiothérapie, qu'on ne la remette pas dans cette situation difficile. Et effectivement, en voyant qu'elle allait quand même plutôt mieux en s'éloignant de la chimiothérapie, elle n'a jamais réitéré cette demande-là. Si aujourd'hui, on demande à statuer dans un délai qui risque quand même d'être assez court sur les demandes d'aide médicale à mourir, peut-être qu'on va mettre en œuvre des procédures où on mettra un terme à la vie de certains patients sans savoir effectivement comment aurait évolué leur demande.
Tout à fait. Tellement d'accord. Chez nous, vous savez, il y a le délai moyen entre la demande initiale d'aide médicale à mourir et la dispensation est de 32 jours. C'est pas très long, c'est pas non plus immédiat, donc voilà. Mais il n'y a pas de délai prescrit par la loi au-delà duquel. Simplement, dans le Code criminel canadien, on demande 90 jours lorsque la personne n'est pas en fin de vie. Donc, il faut que, par exemple, elle est atteinte justement d'une déficience physique grave. Il faut quand même, parce que cette déficience physique grave peut provenir d'un accident. Donc, on passe d'une situation de totale autonomie à une situation évidemment, d'autonomie très affaiblie. Ça peut créer un choc. Donc, on demande quand même 3 mois dans ces conditions-là. Mais sinon, voilà, chez nous, c'est plutôt une trentaine de jours.
Oui, tandis qu'aujourd'hui, sur le projet de loi qui est évalué en France, on est sur plutôt une durée maximale de traitement de la demande, entre guillemets, pour éviter un traitement dilatoire des demandes. Ils expriment que dans les 15 jours qui suivent la demande, si cette demande allait répéter, on doit mettre en œuvre la procédure donc de recueillir l'avis des praticiens, etc., pour pouvoir donner une réponse, qu'elle soit favorable ou non, au patient dans les 15 jours. Ça me paraît extrêmement court.
C'est très court, oui.
Et du côté des soignants, alors il y a cette question du délai, de la prise de décision, mais du côté des soignants, il y a aussi... j'ai souvent entendu l'idée que on pourrait être réduit à des prestataires de services, finalement, répondre à une demande qui ne soit pas prise conjointement avec les soignants et justement avec la collégialité soignante. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans le discours depuis longtemps, d'ailleurs, j'ai remarqué ça. Je sais pas. Donc vous, Anne-Marie, vous disiez que finalement, au Québec, quand la loi a été discutée, enfin quand les débats ont eu lieu, les soignants aussi étaient plutôt...
plutôt favorables. Ouais. C'est comme je vous dis, c'est vrai que bon, j'ai peut-être moins suivi, là, ça commence à dater 2009, mais là je suis avec grand intérêt les débats et j'entends énormément et je lis beaucoup de soignants qui s'opposent. De mémoire, je n'ai pas ce sentiment qu'on a eu le même. On est vraiment, il faut dire que c'est culturel. En Québec, on aime moins la dissension, on est très consensuel, on aime bien. Donc, quand on sent un mouvement, on dirait que les voix qui, peut-être, seraient contre ne s'élèvent pas nécessairement. Donc, je ne suis pas en train de dire que tous les soignants étaient favorables, mais du moins, on ne les a pas beaucoup entendu. Et je sais que le nombre de médecins augmente aussi. En 2019, on était à 3% des médecins participants au système public. On est rendu à près de 8% des médecins qui pratiquent cet acte. Bon, prenant pour acquis que ce ne sont pas tous des médecins généralistes ou des... Et aujourd'hui, il y a les infirmières praticiennes spécialisées qui sont vos infirmières de pratique avancée, qui peuvent pratiquer. Donc, on voit aussi cette augmentation-là. Tout à fait.
Pour finir, j'aimerais aborder la question de la place des proches dans la fin de vie. Est-ce que dans cette procédure qui est celle de l'aide médicale à mourir au Québec, les proches ont une place particulière?
Bon, pour ce que j'en connais dans la loi, évidemment, je parle en termes de juriste, évidemment, les professionnels compétents doivent s'assurer que la personne qui désire obtenir l'aide médicale à mourir aura eu l'occasion de s'entretenir avec les personnes avec qui elle souhaite s'entretenir. C'est la moindre des choses, on va dire. Mais il n'y a pas plus que ça. Donc, c'est vrai que chez nous, on est vraiment dans une perspective d'autonomie libérale, très rationnelle. C'est le concept de l'autonomie individuelle. Donc, on veut vraiment s'assurer que c'est la personne. Après, de lui permettre, comme je vous dis, qu'elle parle avec ses proches, c'est, à mon avis, la moindre des choses. Ça ne devrait même pas être inscrit dans la loi. Mais il n'y a pas plus que ça. Il y a une nouveauté relative à l'aide anticipée d'aide médicale à mourir, la demande anticipée d'aide médicale à mourir, où on parle d'un tiers de confiance, que vous avez déjà comme notion ici en France. où là, la personne, dans son formulaire de demande d'aide médicale à mourir anticipée, peut nommer un tiers de confiance qui va servir finalement à interpeller l'équipe de soins, à faire le lien entre la personne qui, possiblement, est devenue inapte et l'équipe de soins en disant, ben, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle est en train de devenir inapte, ou vous voyez, j'ai l'impression qu'elle est en train de manifester justement les signes cliniques qu'elle avait mentionnés dans son formulaire, au-delà desquels elle ne voulait pas aller. Donc, peut-être serait-elle prête à obtenir l'aide, auquel cas, donc, les professionnels compétents doivent procéder à une évaluation de la personne. Donc, on voit peut-être ce maillon intervenir, là, ce filet entre la personne et... mais c'est la première fois qu'on parle chez nous au Québec, dans les lois, d'un tiers de confiance.
Ah oui, oui. Chez nous, donc, ça correspond à la notion de personne de confiance.
Voilà.
Et c'est vrai que déjà aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la pratique, c'est vraiment très important.
Oui, oui, on essaye de recueillir tant que faire se peut l'information de savoir s'il y a eu une personne de confiance qui est désignée ou non. Après, c'est souvent compliqué de se servir de ce dispositif légal là, qui existe depuis effectivement quelques années en France. Puisqu'il y a un petit peu une confusion entre la personne de confiance, la personne à prévenir, la personne référente. Et puis, parfois, on a des situations où la personne est en capacité de s'exprimer, d'exprimer sa volonté, mais la personne de confiance vient quand même nous interpeller en disant « je pense que... » voilà. Donc, on essaye de reposer les choses, de leur dire que, effectivement, c'est pas le but, là, de la personne de confiance. Et même quand la personne, effectivement, est en difficulté pour exprimer sa volonté ou n'est pas en capacité de s'exprimer, c'est compliqué d'amener la personne de confiance à ne pas exprimer son opinion ou son sentiment sur la situation qui est forcément émotionnellement aussi très impliquée, on peut le comprendre, mais de porter la voix de la personne soignée, voilà, ça c'est extrêmement complexe. Toujours est-il que la personne de confiance, elle a une valeur qui est consultative aujourd'hui dans la loi française, et donc effectivement c'est après à nous, médecins et équipes de soins, de pouvoir guider les personnes qui sont désignées comme personnes de confiance pour que leur participation, elle soit la plus pertinente possible et la plus utile. Et puis, on essaye de faire le tri, effectivement, selon ce qu'ils peuvent nous transmettre.
Dans la situation aujourd'hui des soins palliatifs, les proches, ils ont quand même une place vraiment importante. C'est vrai, vous avez dit, il y a cette confusion peut-être entre est-ce que la personne de confiance, elle est censée donner son propre avis ou elle est censée représenter finalement le patient qui n'est plus en capacité de s'exprimer. Mais les proches, de toute façon, j'imagine, sont très présents dans les soins palliatifs et l'accompagnement. Et puis, les proches, mais aussi ce qu'on appelle maintenant les proches aidants, c'est-à-dire des personnes qui vont prendre en charge une partie des soins et qui peuvent être, pour vous, soignants, une sorte de support.
Effectivement, sur l'unité de soins palliatifs et même en équipe mobile, hein, on est amené à pouvoir accompagner à la fois les personnes malades et à la fois leurs proches. Alors, leur entourage proche, ça va être selon aussi les volontés de la personne malade. Il y a des personnes qui vont vouloir tenir à l'écart telle ou telle personne parce que dans une situation qui est la grave maladie ou la fin de vie, on a peut-être envie de s'entourer de certaines personnes et de peut-être avoir moins de contact avec d'autres. En tout cas, nous, on essaye au maximum de tenir compte de l'entourage du patient. Ça fait partie intégrante de notre prise en soin sur les unités de soins palliatifs, puisqu'on sait que les personnes qu'on va accompagner jusqu'à la fin de leur vie, il y a une période de leur vie qui est donc la phase terminale où ils vont être en capacité de s'exprimer de manière un petit peu fluctuante, voire pas du tout en capacité de s'exprimer. Et alors, à ce moment-là, l'accompagnement des proches, il prend toute son importance. Et il ne faut pas oublier qu'effectivement... comme vous l'avez dit au début de ce podcast, un décès, une fin de vie, c'est la fin de l'histoire d'une personne, mais c'est une partie de l'histoire d'autres personnes qui l'entourent. Et que cette partie-là de l'histoire de vie de ces personnes, il faut pouvoir aussi l'accompagner. Et elles ont la possibilité d'avoir un suivi de deuil avec les psychologues de l'unité. Certaines personnes continuent à venir sur l'hôpital pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour continuer à voir les psychologues de l'unité. Et voilà, cet accompagnement, il ne se termine pas au moment du décès du patient. Et donc effectivement, la posture des proches et la position des proches en soins palliatifs, elle est très, très importante. Ouais.
Je trouve ça fascinant de vous entendre, Brieux, parce qu'il me semble que, en tout cas, à mon sens, c'est vrai que je ne suis pas sur les étages, je ne suis pas dans les milieux de les maisons de soins palliatifs ou quoi, mais j'ai l'impression que dans le cadre de la procédure d'aide médicale à mourir, toute cette chaleur humaine, en fait, que vous êtes en train de décrire, elle est peut-être un peu plus absente. Je ne sais pas, ça devient... C'est peut-être une image que j'ai, une fausse image, mais ça devient un peu plus froid, un peu plus distant, tandis qu'on a l'impression que... Je ne sais pas, il faudra peut-être justement changer. Peut-être que le fait qu'on mentionne le tiers de confiance chez nous, qu'on les intègre un peu plus, on commence à parler du concept d'autonomie relationnelle aussi, hein, de cette idée que l'autonomie ne se manifeste pas que par justement cette volonté individuelle, mais aussi par le biais de la reconnaissance par les autres et de l'accompagnement aussi de ses proches dans des moments évidemment cruciaux et charnières.
Ben, je vous remercie beaucoup tous les deux, hein, Anne-Marie Savard et Brieux Henry. C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé.
Merci.
Merci à vous.
Ce podcast vous est proposé par le réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.